11h, 12h30.
Anne Roumanoff sur Europe 1.
Bonjour à toutes et à tous, ça fait du bien d'être avec vous ce vendredi sur Europe 1. Elle a un peu le blues du printemps, entre la disparition de Dick Rivers, celle de Jean-Pierre Marielle, la nostalgique Léa Landau.
Ah ouais, qu'est-ce que vous voulez, on vous embrasse.
Il n'est pas inscrit sur Tinder, mais sur Sprinter, un site de rencontre pour ceux qui vont un peu trop vite. Le très rapide Ben H.
Je suis arrivé, ça y est. Bonjour à tous.
Bonjour Anne.
Il est persuadé qu'il suit les dernières tendances de la mode automne-hiver 2020, mais parfois on se demande s'il ne suit pas la mode printemps-été de 1989. Le roi des pulls improbables, Jérémy Lorca.
J'ai mis un pantalon.
C'est le pantalon aujourd'hui.
Oh là là, oh là, là, oh là, 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 là. Mais qu'est-ce que c'est que ce pantalon à carreaux?
C'est un pantalon pyjama.
On dirait un torchon.
Mais,
non, c'est une horreur. On dirait que ton pantalon, il a couché avec un de tes pulls.
C'est vrai. C'est un plaid pareil.
Il est heureux de savoir qu'il gagne plus que la moitié des Français, mais le problème, c'est que lui, c'est sur une année, le nouveau presque riche, Mickaël Quiroga.
Ben, un jour, j'y arriverai. Bonjour, bonjour.
Et celle qui est d'humeur printanière, et ça se voit sur ses tenues, plus l'automne s'éloigne, plus elle s'effeuille, la superbe Anne Roumanoff.
Ah oui, effeuillez-moi. Au sommaire de cette émission, Mickaël Quiroga nous parlera de développement personnel. À 11h30, nous recevrons Bilal Hassani, qui représentera la France à l'Eurovision le 18 mai prochain et qui sort aujourd'hui son premier album Kingdom. Et il y a plein de gens dans le public qui sont venus pour Bilal Hassani. À partir de 11h50, notre invité sera Raphaël Glucksmann, tête de liste PS, place publique aux éditions européennes. Ben H évoquera l'épique rassemblement de la gauche, oui. Et Léa Landau lui a préparé une interview, une Léa en remplace une autre.
11h30, Anne Roumanoff, ça fait du bien sur Europe 1.
On va se gêner.
Ceux qui sont venus pour Raphaël Glucksmann, applaudissez. Ah
ouais. On sent que le rassemblement, ça...
Et pour Bilal Hassani.
Ouais. Si Bilal Hassani représente LPS
quand même.
Et ceux qui sont venus parce qu'ils n'avaient rien d'autre à faire.
Hier, Emmanuel Macron a donné une conférence de presse pour sortir de la crise des Gilets jaunes. Un exercice difficile, d'autant plus que c'était la première fois qu'il se prêtait à cet exercice en direct de l'Élysée. C'est quoi votre truc, vous, dans les moments stressants, vous, par exemple, Jérémy, c'est quoi votre truc?
Ah ben moi, écoutez, j'imagine les gens tout nus. Ça m'impressionne moins. Par exemple, si j'imagine Ben H tout nu, je ne suis pas du tout impressionné.
Mais... Bah, tu te trompes.
Il faut dire que tout nu, il n'est pas du tout impressionnable.
Léa,
bah, est-ce que si moi, je vous dis que pour moins stresser, je bois, ça vous étonne?
Non.
Bon, bah alors, ne me posez pas la question.
C'est ça que vous faites quand vous êtes stressé?
Ouais. Bah ouais,
c'est, ça pas, me c'est pas bien, ça.
Je sais, c'est pas bien, mais c'est le seul truc qui me détend.
Ouais, mais du coup, moi, le matin, t'es à côté de moi, l'odeur, c'est compliqué.
Non,
quoi.
C'est pas vrai. Non, non, parce que comme moi, je suis spasmophile, c'est-à-dire, je fais des crises d'angoisse très régulièrement. Même avant de monter sur scène, avant, je faisais ça. Je le fais plus.
Avant, vous buviez?
Ouais, alors... je prenais un petit Ricard.
Mais non, ouais.
C'est la Gainsbourg de l'humour.
À ça. Et moi, tu sais que quand je suis stressé, je me maquille. C'est-à-dire que par exemple.
Et comme Jérémy faisait mes premières parties, t'avais un mec surpoudré au début.
J'étais au roche.
Voilà, et une nana pleine de Ricard après.
Plus j'attends, plus je stresse, plus je remets du fond de teint.
En fait, tu viens voir Jérémy Lorca, tu te retrouves avec un mot d'alire.
Mickaël Quiroga, vous faites quoi quand vous êtes stressé?
Alors, moi, quand je suis stressé, je regarde une rétrospective des buts de Giroud en équipe de France. Non, c'est marrant, puis c'est pas long.
Ben H, vous avez regardé l'allocution?
Bah, oui, évidemment, j'ai regardé l'allocution d'Emmanuel Macron ce jeudi soir, évidemment. Vous me connaissez, quelle question, je suis professionnel, on fait une émission d'actu, l'allocution du président, c'est ce qui fait l'actu. Alors, je compte bien couvrir l'événement, comme à mon habitude, Anne, vous le savez.
Et donc,
bon, ok, je l'ai pas regardé. Mais je vous promets que je vais regarder le replay tout le week-end.
Allez, petit retour sur l'actualité de ces derniers jours.
Selon une étude, un Français sur deux gagne plus de 1 789 € par mois. C'est beaucoup, 1 789 € par mois. Moi, parfois, je gagne pas ça. Hein. Non, mais attendez, un Français sur deux. Un, deux. Ben H, t'es riche, mon salaud.
Non, fais un, deux dans l'autre sens. Hein. À côté de toi, il y a Anne. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la propriété intellectuelle. Alors, c'est la journée idéale hein, pour repérer les cons. Hein, c'est ceux qui, niveau intellectuel, tu sens qu'ils sont pas propriétaires. Oh. Après Notre-Dame, c'est Dick Rivers et Jean-Pierre Marielle qui nous quittent. Sale période pour nos monuments historiques.
Europe.
Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1. Ce vendredi, on se retrouve dans un instant avec Jérémy Lorca, Léa Landau, Ben H, oui. Mickaël Quiroga et deux de nos auditeurs qui tenteront de gagner un séjour VVF Village pour 4 personnes en jouant à notre jeu Devinez qui je suis.
Anne Roumanoff, tous les jours de 11h à 12h30 sur Europe 1. Anne Romanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous ce vendredi sur Europe 1 avec Mickaël qui regale, elle en dos qui s'habille en infirmière ou en pyjama, on
c'est
sait pas
sexy,
trop.
C'est sexy, moi je trouve ça sexy à mort.
Ben H et Jérémy Lorca. C'est, quoi, c'est quoi ce haut?
Mais on me l'a offert et pour une fois que j'essaye de faire un petit effort, tu vois, mais c'est vrai que ça fait 2 semaines qu'il est chez moi et je me dis je vais pas sortir avec ça, on dirait un pyjama. Et alors on parlait dans le couloir avant de rentrer dans le studio des, tout à l'heure des jeans taille haute. Parce que comme on parle de mes vêtements, il paraît que les hommes n'aiment pas les jeans qui montent trop trop haut, et c'est à la mode.
J'adore les jeans taille haute parce que ça aplatit le ventre.
Non mais il faut pas en mettre.
Mais pour les personnes âgées, c'est bien parce que du
pour
coup
pour les personnes
ça,
âgées, ça... Mais tu vas voir, je vais te balancer du café dans la
non,
tronche.
Non mais quand lui, tu t'assois du coup.
Lui, alors lui il fait un témoignage dans le Figaro, il dit oui, Anne Romanoff, elle est formidable, mais dès qu'il est là, il me pourrit personnes âgées, mais va te faire foutre. Et toi t'es quoi, petit morveux?
Oh, elle est vénère.
C'est tellement sincère.
Non mais il faut surtout pas le mettre. Parce que après ça vous fait des fesses bizarres. Vous avez des fesses
ça
de
fait
dos.
Bizarre.
De toute façon, moi j'ai des fesses plates. C'est pas un jean qui va me sauver mes fesses.
Si, là vous aurez les fesses qui vont ressembler à des épaules. Ça veut.
Ça veut rien dire. Bon, ça suffit, non mais. Mais on sent la fin de la saison.
Ah,
là...
On se lâche.
Mais oui. Bon, c'est le moment de notre jeu.
Ah, oui.
Qui s'appelle comment, Jérémy?
Devinez qui je suis. Europe 1, Anne Romanoff.
Anne, pourquoi quand il annonce le jeu, on a l'impression qu'il passe une annonce?
Parce que j'essaie d'imiter ta voix suave et sensuelle.
Tu pourras pas. Tu pourras pas.
Faites-le, Mickaël.
Le deviner qui je suis.
Ouais. Alors, le principe est simple. 2 auditeurs en compétition. Chacun choisit un chroniqueur qui aura 40 secondes pour faire deviner un maximum de personnalités qui ont marqué la semaine grâce à Europe 1. Tentez de gagner vos vacances en famille avec VVF Village. Un séjour d'une semaine pour 4 personnes, 2 adultes et 2 enfants. Vous pourrez choisir le VVF Village qui vous ressemble. Parmi 90 destinations authentiques en France, vous retrouverez petits et grands autour d'activités proches de la nature, du vélo, des randos, du paddle sur les lacs. Vous rencontrerez des gens sympas, partagerez des bons moments. Bref, vous ferez le plein d'émotions. Ça vous plaît, Léa, les gens sympas?
J'adore. C'est mon moment préféré dans ce jeu.
Ne précise pas assez ce genre de détails.
Vous rencontrerez des gens sympas, partagerez des bons moments. Bref, vous ferez le plein d'émotions. Avec VVF Village. Plus d'infos sur vvf-village.fr. Donc si on n'est pas sympa, on ne peut pas aller.
Voilà,
c'est
ça. Pas de VVF pour les gens.
Vous êtes sympa en vacances, Mickaël?
Je vais pas en vacances.
Ah ouais.
Pourquoi?
Parce qu'il faut être sympa. Non, pour moi, les vacances, je vais vous dire, c'est très simple, c'est rien faire. Le luxe absolu pour moi, c'est rien faire.
Donc vous restez chez vous?
Bah mais rien, je reste allongé, rien.
Mais du coup, sur l'année, ça te fait pas mal de vacances, Mika?
Parce que c'est déjà ta vie.
Bien vu.
Ah, c'est dur.
Alors on joue d'abord avec Khadija. Bonjour Khadija.
Hello.
Bonjour Anne.
Bonjour.
Khadija, vous êtes mère au foyer, vous avez 39 ans, vous habitez à Créteil dans le Val-de-Marne.
Et je suis très sympa.
Et vous êtes très sympa.
Donc elle peut partir.
Et vous avez déjà joué cette année, vous aviez perdu, vous aviez joué avec qui?
Il me semble que c'était avec Jérémy.
Ah, ah
c'est le premier qui dit ça.
Ouais, vous êtes la deuxième cette semaine à nous dire ça quand même.
Vous êtes mariée depuis 13 ans, en couple depuis 20 ans, vous avez 2 filles de 11 ans et 17 ans. Et vous avez
11 ans et 7 ans, oui.
11 ans et
7 ans.
Et 7 ans, ouais. D'accord. Vous écoutez l'émission quasiment tous les jours. Qui est votre chroniqueur préféré?
Ben, je dois avouer que Ben H et vous-même, vous me faites beaucoup rire.
Oh, merci.
Et votre objectif en 2019, Khadija, c'est de perdre du poids?
Mais on
alors, j'avais dit à votre standardiste de me mettre au sport, mais si elle a traduit ça par perdre du poids.
Dans l'équipe, il y a un mouvement, il y a quelque chose.
C'est drôle, les
donc en fait, vous voudriez faire du sport en 2019?
Ben oui, à l'approche de la quarantaine, ça y est, hein, c'est plus une option le sport, je pense.
Traînez pas, on est déjà en avril. Hein.
Quel sport vous voudriez faire, Khadija?
La course à pied, parce que j'habite à côté d'un très joli parc.
Ouais.
Peu importe, hein, mais voilà, me mettre au sport.
Vous avez un défaut, Khadija, vous êtes très rancunière, c'est-à-dire?
La définition de la rancune a été calquée sur moi, en fait. Oh. J'ai un défaut, mais j'en ai qu'un seul, contre, il est fort.
La dernière fois que vous avez été rancunière contre quelqu'un, c'est contre qui, Khadija?
Pour vous dire, je n'oublie rien. C'est-à-dire, même en primaire, une ou deux crasses qu'on a pu me faire, je rencontre la personne adulte, je ne peux pas passer au-delà.
Et vos enfants, vous leur pardonnez quand ils vous font des crasses?
Bah, là, je peux pas. Ils sont enfermés dans la cave, là.
Mais non, arrêtez, souris.
J'ai la rancune tenace, mais je me soigne.
Ouais, faut pas qu'il fasse le combat.
Khadija, vous jouez avec qui?
Ne soyez pas rancunière, Khadija.
Je tiens à dire que la liste 1, je suis carrément sûr de vous les faire deviner tous.
Bah oui.
Ah oui.
Moi aussi. Hein.
C'est soyez... vrai.
Ah bah oui, franchement, oui.
Mais laissez-la tranquille.
Vous choisissez qui, Khadija?
Bon, allez, Jérémy.
Oh là là.
Effectivement,
vous choisissez la liste 1 ou la liste 2?
Ah non, la liste 1.
Non, mais attends, c'est pas toi qui choisis, c'est elle. La liste 1 ou la liste 2?
La liste 2 est mieux.
La liste 1.
Non, mais je savais pas qu'avant, on ne pouvait pas choisir les listes.
D'accord. Ben, ça a changé.
Ok.
Attention, vous êtes prêts?
Je ne connais pas le thème, je ne sais pas si vous l'avez.
Ce sont des personnalités qui ont marqué la semaine. Attention, top chrono.
C'est un homme politique qui a beaucoup de sourcils. Il est marié avec Pénélope.
Mais
okay. Ok, c'est un acteur qui a joué dans Titanic.
DiCaprio.
Oui. C'est le Premier ministre.
Oh, le trou de mémoire, je passe.
Ok, c'est une chanteuse qui chantait comme les rois mages en Galilée. Suivez des yeux. L'étoile du berger.
L'étoile du berger.
Oui.
Je passe, pardon.
C'est une chanteuse.
Pardon,
ok, c'est un grand acteur qui est décédé mercredi.
Marielle.
Oui. C'est la présentatrice du JT de France 2. Elle est blonde, très jolie.
Ferrari.
Il y a eu un petit problème de panique, Khadija.
Là, c'est pas moi et les copains, quand même.
Total, là, vous avez perdu tous vos moyens.
Non, j'ai donné les bons indices. C'est le karma, Jérémy, c'est le karma.
Le karma.
Deux bonnes réponses.
François Fillon, c'était François Fillon qui a les sourcils, on peut dire aussi.
J'ai Pénélope, les sourcils.
Oui, candidat à la présidentielle.
Vous étiez bien, Jérémy, c'est moi, vous étiez super.
Anne-Sophie Lapix, c'est présent au journal de France 2, le Premier ministre.
Le Premier ministre, Édouard Philippe.
Édouard Philippe.
Et
Sheila, les rois mages en Galilée. Deux bonnes
vous
réponses.
Vous avez été super, Jérémy.
Ah, merci.
Bon, vous voyez, vous êtes, pas rancunière, c'est bien.
Ouais, c'est bien.
Et heureusement qu'il a changé.
Bon, on va voir comment se débrouille Cyril, mais je vous dis franchement, c'est mal barré, Khadija.
Ouais, là,
Bon, on voit Cyril. Bonjour, Cyril.
Bonjour, Anne. Bonjour, tout le monde.
Bonjour.
Vous avez 19 ans, Cyril.
Oui.
Et vous êtes en terminale professionnelle d'aide à la personne pour devenir infirmier. Vous habitez à Limoges.
C'est ça.
Bravo.
Et vous écoutez l'émission ?
J'écoute l'émission tous les jours, mais ce qui est assez insolite, c'est que j'écoute jusqu'à la fin du jeu et après je coupe la radio.
Pourquoi ?
Mais je sais pas, j'adore écouter le jeu, voilà, et puis après j'ai autre chose à faire, donc je coupe la radio.
Ah bon ?
Non mais si on vous dérange, on peut s'arrêter plus tôt.
Hein, non mais attends, au moins il est hyper honnête, Cyril, ouais. On peut pas lui reprocher ça.
Et vous êtes en couple depuis 3 ans, Cyril, déjà à 19 ans ?
Mais oui, puis j'habite déjà avec ma copine et tout, donc...
Et vous l'avez rencontré en plus sur un site ?
Oui, sur un site internet, ouais.
Et ça fait 3 ans que vous êtes ensemble ?
Ouais, vous êtes rencontrés depuis ?
Qui est votre chroniqueur ou votre chroniqueuse préférée, Cyril ?
Léa Landau.
Oh,
ça me fait plaisir, Cyril.
Et vous jouez avec qui ?
Léa Landau.
Et bien avec Léa.
Bon, on doit faire plus que deux. Normalement, on devrait s'en sortir, Cyril.
Vous êtes prêts ?
Oui.
Attention,
je suis prêt.
Top chrono.
C'est la femme de Marion. De Guillaume Canet, pardon, elle a joué dans La Môme.
Marion Cotillard ?
Oui. Lui, c'est le président russe.
Poutine ?
Oui. Elle jouait dans Alerte à Malibu. Elle a un maillot de bain rouge, blonde, gros sein.
Je passe.
Ouais, ok. Elle chante Besoin de personne. Besoin de personne au piano.
Je passe.
Ok, lui il est mort cette semaine. Il a une banane, un rocker.
Je passe.
Bon, le présentateur du divan, le divan.
Il a 19 ans.
Comment il s'appelle Je passe.
Ok, un ex-ministre de l'école.
Réponse. Dis donc, Cyril, on ne dit pas putain comme ça à la radio. Hein.
Pardon.
Ah oui.
Carnet de correspondance.
Ah oui.
Non mais attends, Cyril, qu'est-ce qui s'est passé? Pamela Anderson.
Non mais je suis perdu.
Il a paniqué. Marc-Olivier Fogiel, qui présente le divan,
oui.
Qui est nommé directeur général de BFM TV, on le félicite. Véronique Sanson, qui était au concert au Palais des Sports. Bon, elle est à limite mal, mais quand même. Dick Rivers, qui est décédé.
Ah, oui.
Et Pamela Anderson.
Quand même.
Oh là là. Bon. 2-2, on dirait qu'on a joué dans une classe de SECPA.
Bon, Khadija, tous les espoirs sont permis, je vais vous départager.
Vous pouvez gagner, Khadija, je suis avec vous.
Alors, vous êtes prêts tous les deux ?
Tu fais lequel ?
Je vais faire
au revoir.
Ok.
C'est la... Elle se présente aux Européennes pour La République En Marche, elle était ministre.
Oh, aussi.
Voilà !
Bravo,
Khadija !
C'est gagné ?
Oui !
J'ai gagné !
Vous voyez ?
Un cri de joie, Khadija.
You.
Vous allez partir, Khadija. Il faut que je vous dise ce que vous avez gagné. Vous avez gagné vos vacances en famille dans le VVF Village qui vous ressemble parmi 90 destinations authentiques en France. Vous retrouverez petits et grands autour d'activités proches de la nature, du vélo, des randos, du paddle sur les lacs et du sport. Donc plus d'infos sur vvf-village.fr. Vous êtes heureuse, Khadija ?
Je suis ravie, je vais pouvoir faire du sport.
Bon, Cyril, pas trop déçu.
Il faut me rechoisir.
Un peu, mais c'est pas grave.
Fallait écouter l'émission entièrement.
Oui, voilà, c'est ça, Cyril. Vous n'allez pas au bout des choses.
Ouais. C'est ça.
Alors, écoutez l'émission entièrement et peut-être vous pourrez rejouer avec nous d'ici un mois, d'accord ?
Ça marche.
On vous embrasse tous les deux. Continuez à nous écouter. Khadija, profitez bien.
Merci beaucoup.
Pour jouer avec nous, laissez un message avec vos coordonnées sur le répondeur de l'émission au 3921, 50 centimes d'euros la minute ou via le formulaire de l'émission sur le site www.europe1.fr.
Europe 1.
On se retrouve dans quelques instants sur Europe 1 avec Léa Londo, Benal, Jérémy Lorca et Mickaël Quiroga qui nous parlera de développement personnel.
Wow. Tout à fait, tout à fait.
Anne Romanoff, tous les jours de 11h à 12h30 sur Europe 1. Sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce vendredi avec Mickaël Quiroga, Léa Londo, Benal, Jérémy Lorca. Toujours amoureux, Benal ?
Toujours.
Oh, c'est vrai, ça dure.
Ça fait 15 jours.
Ouais, moi, c'est incroyable, ça.
Et j'ai été voir le spectacle d'Edouard Baird hier.
Ouais,
et j'étais très bien avec elle. Et à un moment, je lève les yeux et sur le balcon, il y avait Mademoiselle Béroux. Christine Béroux qui était là. Elle était au-dessus du balcon. Elle me regardait, mais comme une mère à son balcon.
Une maquerelle.
Et chaque fois que je levais la tête, elle me regardait. Je ne sais pas si elle a vu le spectacle.
Et ça fait combien de temps que tu es avec elle ?
15 jours, c'est un record.
15 jours. Oh, chez Benal, c'est les noces d'or.
Ça fait plus d'un mois, là. C'est une histoire.
Attends, ils vivent ensemble maintenant et tout. Déjà quasiment.
Ils vont acheter là bientôt.
Venez, on parle d'autre chose.
L'acteur américain Nicolas Cage a demandé le divorce seulement 4 jours après s'être marié à Las Vegas avec sa petite amie depuis un an et demi, qui demande aujourd'hui une pension alimentaire.
Oh là là. Ah non mais attends, elles ont peur de rien.
Et vous, qu'est-ce que vous avez fait sur un coup de tête que vous avez regretté ensuite, Jérémy ?
Oh bah à 5h du mat en boîte, j'ai fait beaucoup de choses sur un coup de tête que j'ai regretté ensuite. Hein. Une fois sur un coup de tête, je suis même rentré avec une fille.
T'étais vraiment bourré.
Une fois arrivé à la maison, la seule chose que j'étais capable de lui faire, c'est un chignon banane.
Mickaël ?
Ah non, moi personnellement, j'ai jamais regretté un coup de tête. Hein. Je les ai toujours mis volontairement.
Oh, le violent.
Léa ?
Moi, j'ai déjà tout fait à cause d'un coup de quelque chose, en tout cas. J'ai quitté. Mais c'est vrai ! Moi, j'ai quitté sur un coup de tête. J'ai gagné au billard sur un coup de queue. J'ai été.
C'est vrai ?
Au billard. J'ai été aimée sur un coup de pouce. Et aïe, Mickaël ! Voilà, et on vient de me demander de me taire sur un coup de coude.
Ben H ?
Moi, sur un coup de tête. Une fois complètement ivre, j'ai demandé une fille en mariage et en plus elle a répondu oui.
Et alors ça s'est fini comment ?
Bah j'ai décuvé, je devais être bien cuit hein, parce que j'ai réalisé que la fille en question en fait c'était le chien du voisin qui a juste répondu ouf.
Les ravages de l'alcool. Mickaël Quiroga, oui. Vous voulez nous parler du développement personnel ?
Alors là, j'ai hâte.
Ah, on a
Non, mais oui, parce que bon.
Ouais, parce que lui, c'est pas tellement la sauce, développement personnel.
Non, alors bon, je sais que bon, bah vous, ça va, Anne. Hein, je veux dire, vous êtes parfaite, épanouie, vous avez
mais
des enfants.
Faillot,
vous avez des enfants exceptionnellement éveillés, vous êtes une femme comblée par. Vous êtes une femme. Il y a toutes sortes de méthodes de développement personnel. Hein, parce que c'est comme le cyclisme ou la course à pied ou le sexe, hein, Jérémy. Ça peut se pratiquer seul ou en groupe. Alors, plusieurs axes au développement personnel, le physique, le mental, le social. Pour le social et le mental, il y a la psychogénéalogie. Je ne sais pas si vous connaissez.
Bien sûr.
C'est une théorie qui est défendue par une psychothérapeute qui s'appelle Anne Ancelin-Schulzenberger, qui dit que les actions passées des membres de nos familles se répercutent jusqu'à nous à travers des attitudes invisibles, détectables par notre inconscient. En clair, en observant les membres de notre famille, on serait influencé directement.
Ouais.
Voilà, du coup, il ne faut pas s'étonner si l'un des fils Sarkozy fait de la politique, si le fils de Johnny fait du rock, ou si le fils de Giroud renonce au football.
Oh.
Pour le côté physique, sachez qu'il y a aussi des méthodes d'épanouissement personnel par le rire, Anne.
Ouais.
Oui, et ça fonctionne. Hein. Alors, il y en a qui vont même jusqu'à prétendre que même le président Emmanuel Macron pratiquerait la thérapie par le rire. Et même, ils disent que ça doit être pour ça qu'il s'est entouré de clowns. Il y a aussi des scientifiques qui vont jusqu'à s'accorder sur le fait que le rire pourrait aider à maigrir, Anne.
Ah bon ?
Ah ouais, selon le docteur.
Pourquoi vous dites ça à moi ? Je suis d'une sveltesse incroyable.
Je dis ça parce que vous êtes la chef. Alors, selon le docteur Marciev Bukowski, rire de 10 à 15 minutes par jour permettrait de brûler jusqu'à 40 calories, ce qui peut faire perdre jusqu'à 2 kilos par an. 40 calories, c'est 30 minutes d'aviron. Alors, si vous avez la flemme de ramer, vous n'avez qu'à regarder Anne faire 30 minutes d'aviron, je vous promets que vous allez rire au moins 15 minutes. Quand Anne fait du sport, ça
rire
fait...
Rire 15 minutes par jour pour perdre que 2 kilos par an, ouais. C'est très mauvais ratio quand même.
Eh ben t'as qu'à rire une heure. Allez. En fait, moi c'est pour ça que je viens dans l'émission. Les gens qui m'entendent dans l'émission, ils pensent que je suis au boulot. En fait, non. Ici, je suis en thérapie. Je viens, vous me faites rire et ça va tout de suite mieux.
Oh. Mais dis donc, t'as peur de te faire virer ou quoi ? Europe 1.
On se retrouve dans quelques instants sur Europe 1 avec Jérémy Lorca, Mickaël Kyrogalé, Alando Benach et notre invité Bilal Hassani qui représentera la France à l'Eurovision le 18 mai qui sort aujourd'hui son premier album Kingdom.
Anne Romanoff sur Europe 1.
D'être avec vous sur Europe 1 ce vendredi avec Jérémy Lorca, Alando Benach, Mickaël Kyrogalé et notre premier invité qui est chanteur, mais attention, un chanteur décrété grande cause nationale puisqu'il aura la lourde tâche de défendre les couleurs de la France à l'Eurovision le 18 mai prochain. Il a une voix, mais il lui en faudra beaucoup d'autres pour amasser les 12 points. Il part à la conquête des cœurs avec son album Kingdom. Il nous ouvre les portes de son royaume des vivas pour Bilal Hassani. Bonjour. Salut. Bilal Hassani.
Salut, bonjour.
Vous savez qu'on n'a jamais autant de jeunes dans le studio qu'aujourd'hui. Hein.
Merci pour ça.
Ah ben ça me fait plaisir, ben je viendrai tous les jours. Alors.
Tous ceux qui sont là pour Bilal, allez-y.
Bonjour.
Sentimille.
J'en reconnais beaucoup.
Alors comment vous expliquez cet engouement pour vous, Bilal Hassani ?
Je ne pourrais pas l'expliquer, je ne sais pas trop. J'ai commencé à être exposé, c'était sur The Voice Kids en 2015, et après j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube, et peut-être c'est parce qu'il y a toujours une proximité entre moi et les personnes qui me regardent, et voilà, peut-être.
Vous avez plus de 900, combien vous avez d'abonnés sur YouTube ?
980 000.
980 000
Ça va. Carrément, c'est le public qui est au
presque
courant.
Presque un million, ouais, c'est fou.
Ouais. C'est fou, ouais.
Et alors là, tout ce qui se passe depuis que vous avez été sélectionné pour l'Eurovision, c'est, votre vie a changé, j'imagine.
Complètement, oui. Je fais beaucoup plus de choses qu'avant. Avant, quand je me réveillais à 13h, j'étais là, oh, aujourd'hui, bon, je vais écrire une chanson, je vais faire une petite vidéo, et puis là, c'est... 7h, il faut que tu ailles là et là et là. Ah, oh, faut te maquiller. Ah, oh, on met la perruque. Attends. Donc ça ne s'arrête pas, mais c'est super cool. C'est ce que j'ai toujours voulu faire, c'est ce que j'ai toujours voulu vivre. Et le vivre, c'est vraiment un rêve éveillé, quoi.
Donc vous avez sorti il y a quelques jours votre premier album Kingdom. Mm-hmm. Et donc il est disponible sur une plateforme de téléchargement.
Exactement.
Et là,
oui.
Vous avez le trac de savoir combien de fois il va être téléchargé, tout ça.
Ouais, bah j'essaie de pas trop y penser. La première chose que je vais faire là en partant, c'est aller me le procurer.
Vous allez
physique.
Acheter votre album.
Oui, parce qu'apparemment ça
c'est
porte
symbolique,
bonheur.
Bien
oui,
sûr.
C'est
symbolique.
Vous allez aller l'acheter à la Fnac.
Oui.
Vous en achetez combien, un ou plusieurs?
Non, plus que ça.
Ah combien vous allez en acheter?
Je vais en acheter
200 000.
À peu près
50 000,
un petit disque d'or en 24 heures.
Je vous donne une astuce, vous déplacez l'étiquette. Vous savez, il y a toujours une étiquette, ouais. Meilleur disque, vous la prenez, vous la mettez devant le
sur
vôtre.
Sur le mien. Merci beaucoup. Non, mais je me rappelle qu'à l'époque, moi j'étais super fan de Lady Gaga, elle avait sorti un album et je m'amusais à prendre son CD et à le mettre devant le CD de tous les
mais
autres.
Oui.
Alors je vous incite à faire la même chose. Mais j'en prendrai trois. Un King... pour ma maman, un pour mon frère et moi.
Kingdom, ça me fait automatiquement penser à Condom, au préservatif, mais c'est con. Mais, c'est... mais non, mais je sais pas pourquoi. Mais du coup, je me disais, tiens, est-ce que vous vous protégez derrière la musique? Est-ce que c'est quelque chose qui.
Il y a quand même un sens.
Bah oui, il y a quand même un sens.
Non, Kingdom, c'est vraiment royaume. Et maintenant, je ne peux plus dire ce mot sans penser à un préservatif. Merci beaucoup.
Bilal Hassani, vous dites à propos de l'Eurovision, je suis très excitée, j'ai vraiment hâte, je n'arrive pas à y croire, car l'année dernière, je regardais l'Eurovision tout seul dans mon salon avec mon plaid, mes pop-corn, mais ma petite grille de points. Oui. Et là, cette année, c'est à moi qu'on va donner ces points.
Ou pas.
C'est ce que vous faisiez il y a un an, vous étiez avec votre petite couverture.
C'est ce que je fais tous les ans.
Donc vous qui avez suivi pas mal d'Eurovision, vous réalisez qu'il y a quand même un engouement particulier autour de vous. Enfin, d'habitude, l'Eurovision,
on s'en fout un peu. Là, on a l'impression que toute la France est derrière vous, quoi.
C'est assez satisfaisant pour moi de voir autant d'enthousiasme, surtout de la jeunesse. On avait vu les chiffres, genre sur Destination Eurovision, qu'il y avait beaucoup de jeunes qui avaient regardé le programme. Et ça m'avait fait trop plaisir. Pour moi, l'Eurovision, c'est quand même quelque chose de super stylé. Et c'est l'image qu'il a en France qui fait que les gens peuvent penser que c'est un peu ringard, mais il suffit juste de regarder. C'est trop
vous allez vous habiller comment, Bilal Hassani? Vous avez prévu votre tenue?
J'ai déjà prévu ma tenue, oui.
Il y a un styliste qui va vous habiller? Comment
alors,
ça se passe?
J'ai pas envie de dire son nom encore, j'aime garder le secret.
Ah, donc il y a un styliste.
Mais ce sera une tenue à base de bacon pour rendre hommage à
Lady Gaga. En fait, j'ai voulu travailler avec donc c'est un petit designer qui est pas du tout connu, donc je vais pas vous annoncer un grand nom. Je n'ai pas travaillé avec Jean-Paul Gaultier ou je sais pas. Tout simplement parce que j'ai pas été contacté par Jean-Paul. Non mais en fait j'avais vraiment envie de travailler avec une équipe, donc toute mon équipe, mon coiffeur, ma styliste, ma maquilleuse, c'est que des gens qui sont hyper frais, qui sont soit jeunes d'âge ou jeunes dans leur tête, qui ont vraiment envie et qui ont faim et qui ont la même niaque que moi, et j'ai trouvé ça avec ce jeune designer et on a fait une tenue de ouf. Ce que je peux vous dire sur la tenue, c'est qu'on me verra de loin.
Il doit être super content le mec parce qu'il tient, je vais habiller le Bilal Hassani, ça me fera de la pub. Ben non en fait.
prochainement.
Alors vous avez un coach vocal aussi, vous faites des cours de chorégraphie.
Oui, il y a une coach vocale, Géraldine Alouche, à qui je fais plein de bisous.
Vous serez seul sur scène, il y aura des danseurs derrière vous.
Il peut pas tout dire.
Il y aura des danseurs.
Je serai pas tout seul sur scène.
Voilà. Il peut pas tout dire, sinon il bosse pour la concurrence.
Vous avez déjà donné un nom à votre perruque, en tout cas.
J'ai donné un nom à ma perruque.
Est-ce que vous donnez des noms à toutes vos perruques?
Toutes mes perruques.
Et celle de l'Eurovision?
Elle s'appelle Eurovision, mais c'est Vivi pour les intimes.
Ah d'accord. Voilà.
Mais vous parlez à votre perruque, Bilal Hassani?
Ah oui, je parle à mes perruques, je les coiffe. Des fois, il y en a une qui est jalouse de l'autre parce que je les portais trop souvent.
Qui vous dit quoi, le psychiatre?
Vous êtes plusieurs dans votre tête, Bilal Hassani.
Oui, il y a beaucoup de choses qui se passent là-dedans.
Et ça vous fait pas peur vraiment l'Eurovision, parce qu'il y a souvent un après, un avant et un après pour les artistes, quoi. Tout dépend du score très souvent.
Moi, j'ai 19 ans, je pense que j'ai encore beaucoup de choses à vivre et faire l'Eurovision si tôt. Déjà, c'est un rêve de ouf. Donc moi, j'y vais pour m'éclater et après, on verra vraiment le reste.
Pas de prise de tête.
Retraite.
Ouais, au pire, j'arrive dernier, je fais un story time sur ma chaîne YouTube, on passe à autre chose.
On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec notre invité Bilal Hassani dont l'album Kingdom sort aujourd'hui, disponible en téléchargement. Allez l'acheter à la Fnac, ça lui fera plaisir. Et puis, il représente la France à l'Eurovision le 18 mai prochain.
Sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce vendredi avec Jérémy Lorca, Léa Londo, Ben H, Mickaël Quiroga et notre invité Bilal Hassani, dont l'album Kingdom vient de sortir aujourd'hui, disponible en téléchargement et dans les magasins.
Est-ce que vous pouvez dire Kingdom? Parce que vous dites Kingdom.
Oui, mais bon, les gens vont comprendre. Non,
c'est comme les enfants qui disent Chomgom. Tu sais, pas dire Chomgom.
King, allez-y, dites-le, Bilal.
Kingdom,
voilà, le royaume. Alors, il y a aussi une grande tournée 21 octobre à Paris à l'Olympiade, 24 octobre Bordeaux, 26 octobre Lyon, 27 octobre Clermont-Ferrand, 30 octobre Toulouse, 1er novembre Besançon, 2 novembre Nancy, 3 novembre Metz, 6 novembre Lille, 7 novembre Rennes, 15 novembre Caen. Tout ça,
c'est fou.
Elle vient de vous chauffer l'Olympia, là. C'est bon, la salle est...
C'est bien, tout est prêt.
Tout est prêt.
Tout est prêt.
J'ai si hâte.
Est prêt, il ne reste plus rien au buffet. Je
Alors, Bilal Hassani, vous avez beaucoup été critiqué sur les réseaux sociaux. Vous dites que vous en avez l'habitude depuis que vous êtes petit. Ça a commencé les moqueries dès votre plus jeune âge. Au CM1, vous êtes blindé contre ça?
Un petit peu. C'est triste à dire, mais je suis un peu blindé contre ça. Je suis un peu anesthésié. La haine ne me fait plus grand-chose, en fait. Et je pense que si j'avais pas vécu ce que j'ai vécu au collège...
Vous avez été harcelé au collège?
Un petit peu. Y avait des gens pas très sympas parce que j'étais pas comme tous les autres garçons. Et si j'avais pas vécu ça, je sais pas si je serais blindée à la haine que je reçois aujourd'hui, donc je suppose que je remercie les gens qui m'ont harcelé.
Et vous lisez les commentaires qu'il y a sur vous ? Vous les lisez tous, les commentaires ?
Bah, en fait, on veut pas les lire, mais ils passent, quoi. Même quand je vais juste dire bonjour sur Twitter ou un truc comme ça, des gens qui vont me dire bonjour, bonjour, et qui sont super contents, et puis elle va mourir. Tu lis, quoi, il est là. Donc on peut pas ne pas les lire à moins que je...
C'est une époque qui est particulièrement violente, quand même, en ce moment.
Ouais, j'ai l'impression même qu'on régresse un petit peu au niveau des mentalités, qu'il y a ce truc un petit peu où toutes les minorités ont décidé d'avoir une voix et de parler et de dire ce qui les dérangeait. Et donc, tous les autres, ils sont là, oula, oula, c'est pas normal, attends, on va leur taper dessus, ils se réveillent, là, c'est pas bien.
Et donc, vous êtes une double minorité, quelque part, Bilal Hassani.
Ouais, moi, je coche beaucoup de cases qui veulent énerver les gens.
C'est ça.
Bah oui, je suis d'origine maghrébine, je suis homosexuelle, et en plus, il fallait que je sois homosexuelle et efféminée, que je porte des perruques, etc. Donc, alors,
tu cherches la merde, hein.
Certains peuvent prendre ça comme ça, ouais. Donc, c'est un petit peu...
Et en même temps, vous, dans votre disque, vous voulez transmettre un message d'acceptation aux autres ?
Complètement. Moi, ce que je fais tous les matins, par exemple, c'est que je me dis un petit compliment devant le miroir avant de commencer ma journée.
C'est vrai ?
Tous les jours.
Alors, ce matin, c'était quoi ?
Ce matin, c'était ses sourcils.
Parfaitement voilà. Dessinés.
Mais ils sont géniaux, mes sourcils. Et tout le monde me dit qu'ils sont maquillés. Et ben, ils sont pas maquillés. C'est,
ah, ils sont
naturels. Fournis comme ça. Oui.
Ah ouais, là, bravo.
J'en suis très fière. Ah ouais. Merci beaucoup. C'est celui que je ressors le plus souvent.
Ah ouais. Excusez-moi. Est-ce qu'on peut avoir une discussion de mecs deux secondes ?
Oh, les mecs peuvent avoir des beaux sourcils.
C'est une discussion de mecs.
Alors, on vous a dit de vous que vous étiez l'égérie des LGBT. Et puis après, vous dites oui, mais non, vous ne voulez pas non plus être un militant. Comment ça se
alors,
passe ?
Alors, l'égérie, on ne m'a pas dit l'égérie, on m'a dit le porte-drapeau, le porte-parole. Et porte-parole, en fait, c'est juste que c'est un poids un petit
trop
peu...
Trop de responsabilité.
Lourd, pour vos 19 ans.
Pour mes 19 ans. Je ne sais pas si je suis assez éduquée et assez éloquent pour tenir toute une communauté derrière moi. Et je n'ai pas envie de ne pas pouvoir assumer ce
rôle. Et de ne pas les décevoir aussi.
Et de ne pas les décevoir. Mais après, je comprends qu'on me mette sur
ce créneau-là,
un petit peu ce créneau-là, qu'on me dise voilà, t'es l'icône LGBT de la jeunesse. Et c'est vrai que c'est cool. Moi, j'aurais bien aimé avoir un mec avec une perruque quand j'étais petit, à 12 ans, à la télé. Je me serais dit, ah, ok, je suis pas trop bizarre, j'ai pas un problème et tout.
Vous racontez, Bilal Hassani, quand vous avez reçu votre première perruque, vous étiez tout excité, vous l'avez commandée sur Internet, c'est ça ?
Ouais,
c'était un grand moment pour vous ?
J'ai commandé la perruque sur Internet, elle n'était pas chère du tout, elle n'était pas du tout de bonne qualité, c'était pour un concert de Lady Gaga.
Ouais. Et comment elle s'appelait cette perruque ?
Elle n'avait pas de nom, c'était à l'époque
encore,
où
c'était
en 2014 et j'avais pas encore cette affinité avec les cheveux. Aussi c'était des cheveux synthétiques, là ouais. Ce que j'ai maintenant c'est des cheveux humains, donc c'est je peux pas ne pas leur donner de nom. Mais donc j'étais très 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 content. En fait je devais la garder sous papier avant le concert parce que j'allais la porter pour le concert de Lady Gaga et c'était à 2 semaines avant que je l'ai reçue et j'ai pas pu m'empêcher de la mettre comme ça dans ma chambre, j'ai fait... Je suis en train de bouger mes cheveux pour les auditeurs.
Et votre mère, comment elle a pris ça quand vous êtes arrivé avec une perruque, Bilal Hassani ?
Bon, elle l'a très bien prise. C'est elle qui l'a commandée hein, pour moi. Je lui ai demandé. Bah, depuis que je suis tout petit, j'ai toujours été fasciné par les cheveux longs. En fait, moi, je mettais des écharpes, des plaids, des serviettes de bain sur ma tête tout le temps. Et je faisais comme ça parce que je voulais être comme Pocahontas, avoir
les cheveux. Et vous pouvez pas vous laisser pousser les cheveux.
J'avais les cheveux longs, ouais. Mais moi en fait j'ai les cheveux bouclés, frisés. Ouais. Donc quand ils poussent plus comme ça
sur la largeur,
sur
que la
largeur que sur la longueur.
Bilal Hassani, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter
que tout se passe bien, que la performance puisse avoir un impact, même tout petit, sur peut-être quelques mentalités, j'espère. Et que la tournée ne soit pas foirée. Parce que commencer avec l'Olympia, c'est vraiment stressant.
C'est vrai, normalement, on clôture avec l'Olympia.
Eh bien, on a hâte. Merci, Bilal Hassani, d'être passé nous voir. On rappelle votre album Kingdom, disponible aujourd'hui sur toutes les plateformes de téléchargement et l'Eurovision le 18 mai. Merci à vous.
Merci.
Dans quelques instants, c'est les Raphaël Glucksmann qui sera notre invité. Ne bougez pas.
Midi 30.
Anne Romanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce vendredi avec Mickaël Quiroga, Lalando, Benaj, Jérémy Lorca et notre invité qui est un essayiste et philosophe en plein changement de vie depuis qu'il est tête de liste du mouvement Place Publique aux Européennes, auteur des livres Mai 68, expliqué à Nicolas Sarkozy ou Génération Gueule de Bois. Il est connu pour son malicieux franc-parler. Peut-on vraiment être encore philosophe quand on veut changer un monde aussi complexe que le nôtre, ou faut-il être philosophe pour faire de la politique? C'est ce qu'il va tenter de nous expliquer ce matin. Raphaël Glucksmann est notre invité. Bonjour Raphaël Glucksmann.
Bonjour.
Vous êtes tête de liste du mouvement Place Publique, PS pour les Européennes. Vous dites vouloir occuper le vide laissé dans l'espace public. Il y a un vide dans l'espace public ?
Il y a un vide en particulier à gauche. Il y a un vide de social-démocratie. Il y a un vide de quête de justice sociale, de quête de transformation écologique. Oui, il y a un vide. On est tous des enfants de ce vide. Moi, je suis comme les auditeurs et les auditrices, les citoyennes et les citoyens. Et je pense qu'il faut revenir en fait aux idées. Il faut revenir à des convictions. Il faut que chacun plonge en lui et se demande en quoi il croit aujourd'hui.
Mais le grand débat pour vous, ça meuble, mais ça remplit pas, Raphaël Glucksmann. C'est pas plutôt le Parti Socialiste qui s'est vidé?
Le grand débat, c'est une chose. Moi, j'étais tout à fait pour. Vous savez, je suis pas un opposant pavlovien à Emmanuel Macron. Si Emmanuel Macron lance des initiatives qui sont positives, je le dis. Mais malheureusement, le grand débat, il a souvent tourné au one-man show du président. Et là, on est... face à la pauvreté de la réponse, en fait, à la crise sociale. Vous savez, on traverse vraiment une crise d'une ampleur sans précédent.
C'est une crise de sens aussi, c'est pas seulement...
Oui, c'est une crise de sens, c'est une crise de justice. Il y a un sentiment diffus partout en France d'injustice. Injustice fiscale, injustice sociale, injustice territoriale et un sentiment d'absence de sens. Et vous savez, Emmanuel Macron, il avait promis, quand il a été élu président, de renouer avec ce qu'il appelle l'héroïsme politique, c'est-à-dire les grandes idées, les grandes visions, de dire vers où on va amener la France. Et malheureusement, bah, ça se transforme dans quelque chose qu'on a déjà connu. Hein. C'est pas le premier à faire ça, mais des petites phrases, des petites mesures. Et finalement, on est tous perdus, en fait. On ne sait pas vers où on va ensemble, on ne sait pas ce qu'on fait en tant que peuple. Il n'y a que des moments tragiques, comme les attentats ou l'incendie de Notre-Dame, où on a l'impression de faire partie d'une même nation, d'une même société. Mais au-delà de ça, on a ce vide de sens.
On perd tous les élans de solidarité.
Alors comment il faut faire, Raphaël Glucksmann? Parce que c'est une chose de constater, mais après?
Eh bien, il faut fixer un cap. Et il faut s'engager en politique. Non, mais je sais que ce n'est pas très populaire de dire ça. Et il y a besoin de fixer des caps. Et tout le monde ne pense pas à la même chose dans notre pays. Et c'est très bien. Il y a des gens qui ont une vision conservatrice de la société et ils sont parfaitement légitimes à l'exprimer. Il y a d'autres gens qui sont plus progressistes. Il y a d'autres gens qui sont d'abord épris de solidarité sociale. Mais il faut en fait assumer un cap. Moi, ce qui me gêne dans le « et en même temps », c'est qu'en fait, on ne voit pas trop où on veut en venir. Et du coup, ça brouille toute la scène politique. Et je pense aussi...
Vous dites qu'Emmanuel Macron est de droite.
Ben oui, enfin, il mène une politique qui me semble de droite, qui est une politique libérale. Vous savez, il avait promis d'être le président de la décentralisation, du pacte girondin, de la respiration de la démocratie. On se retrouve avec quelqu'un qui concentre tous les pouvoirs, centralise toutes les décisions. Il avait promis d'être le candidat de la France humaniste. On se retrouve avec un président qui refuse d'accueillir même un bateau de 60 personnes de naufragés en Méditerranée. Il avait promis d'incarner un souffle nouveau et on se retrouve dans une France que moi je trouve figée. Il avait promis de réconcilier les Français, on n'a jamais été aussi fracturés.
Mais on a reçu Jacques Attali il y a très peu de temps qui nous disait qu'en fait le président aujourd'hui n'a plus les pouvoirs d'agir.
Il y a du pouvoir en politique. Simplement, ils ne l'appliquent pas parce qu'ils n'osent pas se confronter avec les lobbies. Ils n'osent pas s'opposer avec les intérêts particuliers.
Mais vous pensez que quelqu'un vraiment osera le faire un jour?
Mais c'est vraiment le choix de l'impuissance. C'est ça le problème de la politique aujourd'hui. Mais le problème que ça pose, c'est qu'en réalité, ceux qui vont assumer la politique aujourd'hui, mais la politique au sens fort, c'est-à-dire capable de maîtriser collectivement son destin, eh bien, ce seront les gens d'extrême droite, ce sera Salvini. Vous savez pourquoi Salvini, quand il va dans un village du sud de l'Italie, c'est pourtant lui, il représentait la Ligue du Nord, c'est-à-dire un parti qui était xénophobe contre le sud de l'Italie. Et moi, quand j'ai travaillé sur l'Italie, c'était impossible que quelqu'un de ce parti aille dans le sud de l'Italie. Aujourd'hui, il va dans un village du sud de l'Italie, il y a la moitié du village qui se presse sur la place publique pour l'écouter, pour l'entendre, pour le toucher, alors qu'il est d'extrême droite et qu'il est anti-sud. Mais pourquoi? Mais parce qu'en fait, il redonne des lettres de noblesse. Alors ça me tue de dire ça, parce que c'est vraiment l'opposé de tout ce que je pense, à la politique. Il dit que si un peuple se rassemble et dit non, eh bien ça vaut quelque chose. Que face à ce qu'on nous décrète comme étant notre destin, sans pouvoir rien y faire, non, si on peut faire quelque chose. Et donc si la politique ne reprend pas le contrôle, eh bien ce seront les Le Pen, les Salvini qui reprendront le contrôle.
Vous voulez vous annoncer, Raphaël Guzman, vouloir vous battre contre les lobbies et les monstres de la finance, contre l'austérité qui entrave les grandes décisions écologiques. Vous êtes le héros que tout le monde attendait, celui qui va relever le PS, terrasser Macron, le dieu de la finance.
En plus, le problème, c'est que je ne crois pas spécifiquement aux héros. Je pense qu'on a déjà assez de gens qui se prennent pour César ou Jupiter dans notre pays.
Non, mais c'est pas un peu naïf. Vous avez des très belles idées, mais est-ce que... Non.
Mais c'est, en fait, vouloir combattre, c'est pas naïf. Ce qui est naïf, c'est de croire qu'on peut continuer comme ça et que tout va continuer comme avant. Non, dans 11 ans, on bascule dans l'irréversibilité de la catastrophe climatique. Tout ne va pas continuer comme avant si on ne change pas. Croire qu'on peut continuer la même politique sociale sans avoir des crises répétées comme celles qu'on connaît aujourd'hui, c'est ça être utopiste, c'est ça être naïf. Croire que finalement on
mais
peut
m'engueulez
contenir...
pas, c'est... je me fais engueuler. Non, mais...
croire qu'on peut...
Je ne suis pas Jean-Jacques Bourdin.
Monsieur Bourdin.
Monsieur Glucksmann. Répondez.
Non, mais croire qu'on peut contenir la vague nationaliste simplement en disant... soyez des castors, faites des barrages, ça ne va pas marcher comme ça. On est dans une situation de crise, comme ça, de nos démocraties. Et donc, il faut avoir des grandes ambitions, en fait. Avoir des grandes idées, justement. Vous allez dire que c'est idéaliste, mais la seule manière de vaincre les intérêts particuliers, c'est de créer des mouvements. Quand Nicolas Hulot, il démissionne du gouvernement, parce qu'il dit, il n'y a pas de mouvement dans la société pour me soutenir face au lobby. Mmh. Mais il a raison.
Ouais.
Il a raison. Il faut donc qu'il y ait des mouvements comme ça, qui sont fondés. Les mouvements, vous n'allez pas...
Mais d'où la question, est-ce qu'on peut vraiment agir pour faire changer les choses? Parce qu'on peut avoir l'ambition du changement, et c'est super. Déjà, il y en a qui ont plus l'ambition du pouvoir, c'est autre chose. Mais en tout cas, voilà, lui, il est parti parce qu'il s'est dit, je ne pourrais rien faire.
Mais parce qu'il n'y avait pas... Il l'a dit, parce qu'il n'y avait pas de mouvement structuré autour de sa personne. Parce qu'il pensait que juste sa popularité allait faire contrepoids au lobby. Mais un homme seul, ça ne peut pas y arriver. Donc, ce n'est pas une question de héros. C'est une question collectivement... Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut se mettre en mouvement?
Alors vous vous ferez entourer de qui, vous, Raphaël Glucksmann?
Mais déjà, moi, j'ai une liste de combattants pour les élections européennes. Prenez une personne comme Claire Nouvian. Elle est prix Nobel d'écologie, enfin l'équivalent, c'est prix Goldman, pour sa lutte contre les lobbies industriels de la pêche. Et elle a réussi à obtenir seule, avec son association, ils étaient 7, des votes du Parlement européen qui interdisent la pêche électrique qui est en train de... tuer tous les poissons et de mettre au chômage tous les pêcheurs artisanaux. Elle a réussi à obtenir l'interdiction de la pêche en eau profonde, mais seule en consacrant son existence à faire du contre-lobbying dans les institutions. Et donc si une personne seule comme elle peut obtenir une victoire contre des lobbies, mais massifs, avec des tonnes d'argent déversées dans les activités de lobbying, eh bien ça veut dire qu'on peut agir. Et donc, ce qu'il faut, c'est envoyer des combattants, alors je ne serai pas seul, justement, à Bruxelles, pour que, voilà, y ait des gens qui soient capables de dire au lobbyiste qui vient rentrer dans son bureau, mais barre-toi. En fait, barre-toi avec ton analyse fausse.
Vous allez faire ça, Raphaël Glucksmann, vous allez dire barre-toi au lobbyiste?
Ouais.
Ouais.
Mais
barrez-vous,
je pense que c'est ça qu'il faut. Barrez-vous, parce que je suis. Et puis ils sont plusieurs, et puis en plus je suis poli, donc je vous vois les gens que je connais pas. Mais...
Il peut le dire en anglais aussi. Faut qu'il...
Allez. Enfin. On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec notre invité politique du jour, Raphaël Glucksmann, tête de liste PS Place Publique pour les élections européennes. Ne bougez pas.
Anne Romanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous ce vendredi sur Europe 1 avec Mickaël Quiroga, Alando, Ben H, Jérémy Lorca et notre invité Raphaël Glucksmann, tête de liste PS Place Publique pour les élections européennes. Alors, en moins de deux semaines, votre liste avait 7% d'intention de vote, elle a gagné 1,5% dans les sondages. Et alors après cette émission, Raphaël Glucksmann, ça va être énorme. Vous dites, je veux retrouver l'approche romantique de la politique. Je suis amoureux de ce rassemblement qui porte un combat commun. En fait, vous êtes à la fois Victor Hugo et Lamartine, Raphaël Glucksmann.
Il y avait une grande tradition en France qu'on a un peu perdue, qui est que les intellectuels, les écrivains, eh bien, participaient au débat public et à l'action collective. On a un peuple où, en fait, on a cru pendant très longtemps que justement la politique pouvait transformer la société. Mais pour ça, il faut avoir un rapport romantique aux causes qu'on entend porter. Alors bien sûr, ça fait... étrange, c'est pas dans les codes habituels de la politique de parler comme ça. Mais moi, je suis convaincu que, par exemple, si on veut que la gauche renaisse, eh bien, il faut qu'elle tombe à nouveau amoureuse, eh bien, des idéaux et des causes qui la définissent. Et je crois pas, moi, à ce qu'on nous dit sur la mort de la gauche. Moi, je pense qu'il y a plein de gens qui font vivre encore ces idéaux dans la société. Simplement, ils ne sont plus dans les partis politiques. Ils sont dans les associations. Je veux dire, quand on dit que la France tout entière refuse d'ouvrir les ports aux naufragés de la Méditerranée, moi, je pense à ces centaines de milliers de Français qui ont accueilli des gens chez eux. Quand on dit qu'il n'y a plus de solidarité sociale, mais vous avez vu le nombre de gens qui participent à des maraudes pour aider les sans-abri. Et tous ces Françaises et ces Français, eh bien, personne ne parle pour elles et pour eux. C'est comme si on s'adressait aux gens qui refusent la solidarité, qui refusent l'humanisme. C'est faux. On a une société qui est encore vibrante.
Les histoires d'amour, ça doit être réciproque. Donc les électeurs doivent aussi retomber amoureux d'un parti politique. Et ça, c'est pas évident.
Ouais, c'est vrai.
Parce qu'ils n'ont plus confiance.
Va falloir nous embrasser. Hein.
ils ont été trompés, trahis. Ils n'ont plus confiance.
On est en plein chagrin d'amour, là.
Ouais. On est en plein chagrin d'amour, c'est évident.
Ah non, moi j'ai le seum. Hein.
la rage totale. Ouais, même, y a la colère, mais bien sûr. Il y a eu beaucoup de renoncements, beaucoup de trahisons. Mais après, la vérité, il faut se la dire, il n'y aura pas de démocratie sans parti politique. Alors, ça a mauvaise presse, ça sent mauvais. On a l'impression que c'est des sucettes qui en fait ont le goût de morue. Mais en réalité, on a besoin de partis politiques.
Vous dites, Raphaël Glucksmann, je n'ai pas les codes de la politique, mais je crois qu'il faut des gens de l'extérieur pour relancer la gauche. Pendant le débat, vous avez eu l'impression que ça vous a manqué de ne pas avoir les codes de la politique ?
C'est sûr que si c'était à refaire, j'apprendrais mieux mes punchlines. je pense que je n'ai pas ces codes et que j'ai tâtonné parce que aussi j'étais surpris. C'est-à-dire que 12 personnes qui ne s'écoutent pas et qui ont préparé une minute qu'elles ont apprise par cœur et qui la sortent sans avoir aucun souci de ce qui a été dit avant et de ce qui sera dit après. Enfin, moi, c'est pas ma conception du débat. C'est-à-dire que j'ai fait l'erreur monumentale, je me suis planté là-dessus, d'écouter ce que les autres disaient, de réfléchir à ce qu'ils pensaient. Et en fait, faut pas faire ça.
Pour rester spontané, quoi, à la base.
Vous avez cru que c'était un débat.
Voilà.
En fait, vous avez cru qu'ils pensaient.
Non, mais c'est voilà. Et puis en plus, j'ai été surpris aussi parce que. Moi, je sais un peu ce que les uns et les autres pensent. Et il y avait des réponses. Le seul moment que j'aimais bien, c'était les réponses où il fallait dire son vote. Et je me suis rendu compte qu'en fait, par exemple, un sujet qui n'est pas central dans la vie des gens, mais l'élargissement à la Serbie.
Oui, ils ont tous voté contre.
Ils ont tous voté contre, alors que je sais très bien qu'ils sont pour. Et qu'ils savent qu'il faut le faire. Mais simplement, c'est impopulaire aujourd'hui de le dire. Et donc, on va mettre le bouton non. Et moi, j'étais persuadé que tout le monde allait voter oui, enfin, pas sauf les nationalistes, mais ceux qui savent que de toute façon, les négociations, elles sont déjà là, que la Serbie, c'est un peuple européen, que tous les pays aux alentours,
vous
ils sont déjà
choqué,
dans l'Union européenne.
Vous avez été choqué.
J'ai appuyé sur oui et je regardais le vote des autres après. Et je me suis dit, ah ouais, finalement, c'est ça la politique, quoi.
C'est-à-dire
qu'en fait,
mais du coup, si c'était à refaire, vous mettriez non ou pas ?
Non, là, j'assumerais oui. Et justement, je pense qu'on va redonner du crédit à la politique si on est capable d'assumer aussi des positions qui peuvent être impopulaires. C'est-à-dire que moi, je sais très bien qu'aujourd'hui, il y a une majorité des Français qui sont contre l'accueil des naufragés de la Méditerranée et qui sont pour fermer les ports. Ben moi, je me battrais pour dire que ça ne peut pas être ça la France, ça ne peut pas être ça l'Europe. Et que oui, il faut aller sauver les gens qui sont en Méditerranée. Et oui, il faut un régime européen de l'accueil et de l'asile qui redistribue pour ne pas faire peser...
Mais ça va, vous allez être élu forcément, Raphaël Glucksmann, vous êtes le premier sur la liste. Donc vous allez aller en Europe
Le seul ou le premier?
Oui. Non. Il ne va pas aller en Europe, il va aller à Bruxelles.
Vous allez être député, ça va être un changement de vie total, entre agiter des idées, réfléchir, faire des débats, révolter, et là tout d'un coup...
C'est déjà un changement de vie total, chère Anne.
Ah oui?
Oui, bien sûr, quand on est un intellectuel, on commente la vie politique, on commente la médiocrité des autres. Alors,
vous êtes dans la médiocrité.
C'est franchement plus facile. Mais
en étant à l'extérieur.
Au bout d'un moment, si on croit vraiment dans les mots qu'on prononce ou qu'on écrit, on est obligé d'essayer. On est obligé de tout faire pour que ces idées-là, elles triomphent.
Mais là, vous devez avoir...
Et donc, effectivement, franchement, l'entrée dans l'atmosphère est assez turbulente.
Il y a des choses auxquelles vous ne vous attendiez pas en découvrant ce monde politique? Vous saviez...
Non, mais ce que je découvre, par exemple, c'est que plus les gens sont proches de vous idéologiquement, sur les positions, plus ils vont vous tacler. Parce qu'en fait, c'est votre concurrent immédiat.
Ah, et on embrasse Benoît Hamon, évidemment.
C'est quoi votre objectif avec Glucksmann pour les européennes?
Gagner.
À quel pourcentage vous seriez content?
Moi, je me fixe pas de pourcentage. Ce que je veux, c'est qu'il y ait une dynamique. C'est-à-dire que si on reste dans les eaux que vous avez citées à 7%, c'est sûr que je ne serais pas satisfait. Donc il faut qu'on crée une dynamique, qu'on monte et qu'on puisse avoir cette force suffisante pour ensuite imposer l'unité qu'on n'a pas réussi à faire maintenant.
Donc 10%, ça vous plairait ?
C'est vous qui décidez.
Non, mais non, c'est pas moi, c'est moi.
Alors, non, mais
je suis bien trop superstitieux pour ce genre de choses.
C'est Romanov qui décide, on n'est pas dans la merde.
Le problème, c'est que j'ai une éducation super rationaliste et tout ça, mais je dois avouer que j'ai un petit côté superstitieux, donc je ne vais pas parler de ce genre de choses.
Bon, alors 13%, voilà.
Okay, ouais, qui dit mieux. 13 en plus comme nombre, voilà, ça fait plaisir.
On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec notre invité Raphaël Glucksmann, tête de liste PS Place Publique pour les élections européennes. Ne bougez pas.
Anne Romanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce vendredi avec Mickaël Quiroga, Alando, yes, Ben H, Jérémy Lorca, yes, et notre invité Raphaël Glucksmann, tête de liste PS Place Publique pour les élections européennes. Alors en 2015, vous avez publié le livre Génération Gueule de Bois. C'était quoi ? C'était un livre sur mes chroniqueurs ? C'est... Cette génération Gueule de Bois, Raphaël Glucksmann, c'est la vôtre, c'est aussi celle d'Emmanuel Macron. Au lieu de se plaindre, cette génération, elle ne peut pas juste prendre un Doliprane. Vous êtes en train de me dire qu'on a élu une gueule de bois. Remarquez, ça change de la langue de bois. Est-ce qu'on a la gueule de bois quand on aura ceux qui pratiquent la langue de bois ?
On a la gueule de bois quand, en fait, on nous avait promis, quand on était enfant, que désormais, eh bien, il y aurait la paix. C'était la chute du mur de Berlin, c'était la théorie de la fin de l'histoire, que désormais, il y aurait la paix, la prospérité, la croissance. Et on se réveille dans un monde où la démocratie est en crise. Les gens sont stupéfaits par la violence des inégalités qui fracturent nos sociétés. Et on nous annonce qu'en fait, eh bien, si on continue comme ça, dans 10 ans, dans 11 ans, eh bien, la planète deviendra invivable. C'est le réchauffement climatique et la disparition de la biodiversité. Alors là, c'est une gueule de bois un peu plus sérieuse que simplement une cuite au mojito. C'est un état d'esprit général dans toutes... C'est pas simplement les Français. Dans toutes les démocraties occidentales, il y a eu ce mythe comme ça, qui était que les grandes tragédies, c'était fini, que désormais, eh bien, l'avenir était tracé. On avait autour de notre berceau des fées qui étaient... Internet, l'iPhone, la promesse d'un monde de circulation, d'ouverture. En gros, on tomberait plus jamais dans les guerres, plus jamais dans les grandes catastrophes. Et là, on voit un avenir qui est sombre. Et donc, cette gueule de bois, la seule manière d'en sortir, c'est de se retrousser les manches, de mettre un bleu de chauffe et de partir au combat.
Vous savez ce qu'on dit à chaque fois quand on a une gueule de bois, c'est que plus jamais on fera les mêmes conneries et finalement, quelques années après, on recommence.
Dit aussi, boire, c'est repartir.
Jusqu'au moment où on vous diagnostique une cirrhose.
Exactement.
Et là, vous commencez à prendre au sérieux le diagnostic du médecin. Or, franchement, notre mode de production, notre mode de consommation, la manière dont on gère notre rapport au monde... Aujourd'hui, les scientifiques du monde entier nous diagnostiquent une maladie sérieuse.
Ah ouais.
Donc à un moment, il faut devenir adulte. Et c'est toujours un moment difficile dans l'existence, mais il faut devenir adulte. Ça veut dire faire un effort sur soi-même et être capable de changer son rapport au monde et à la nature.
Ben H a des choses à vous dire, Raphaël Glucksmann.
Vous le savez, Anne, j'ai su conserver mon âme d'enfant, hein, amateur de contes et légendes. Je ne compte plus le nombre de fois où tantôt ma naïveté, tantôt mon imagination m'ont joué de sacré tour, comme la fois où Léa Landau m'a invité chez elle, me disant par SMS « Les clés sont sous le paillasson, fais comme chez toi ». J'ai passé 2 heures à l'attendre nue sur son canapé, avant de réaliser qu'elle me demandait simplement d'arroser les plantes en son absence. Oui, j'aime à me laisser porter par de douces chimères, hein, le Père Noël, la petite souris, les licornes, la démocratie ou même l'égalité des chances. Quel fieffé rêveur je suis. Par conséquent, j'aime également me plonger dans les grandes histoires où des héros du quotidien prennent leur destin en main pour réaliser l'impossible, conquérir un royaume, sauver le monde ou plus fou encore, rassembler la gauche en France. Et c'est ainsi que commence la folle aventure épique rocambolesque de Raphaël Glucksmann ou le dernier épisode de Game of Gauche. Tous les royaumes de la gauche étaient aux abois. Depuis la prise de pouvoir du roi En Marche, les vieux bastions des seigneurs de gauche s'étaient effondrés un par un. D'abord les communistes, qui étaient depuis passés au stade de civilisation préhistorique oubliée. Puis ce fut au tour du Parti Socialiste, passant en un quinquennat du trône avec majorité à une ruine faite de fantômes sans idée. Et puis l'Europe Écologie, qui est restée Europe Écologie. Et justement, c'est peut-être ça le problème. Mais de ce marasme électoral, sur les cendres d'une gauche encore fumante, sur la dépouille des vieux éléphants qui respirent encore à peine, un héros naîtra. pas Batman, non, Spider-Man, non, Glucksmann. Mais la route vers le trône de gauche est longue, périlleuse et semée d'embûches. Combien de prétendants ont échoué, que ce soit sur une colère saine un soir d'entre-deux-tours présidentiel ou sur un coup éclair et sans amour dans la chambre d'un Sofitel. Dans la course au rassemblement, beaucoup feront défaut. Benoît Hamon garde son cap avec Génération, les Verts s'obstinent jusqu'à la perdition et le PC ne daignera même pas négocier. Alors oui, les optimistes diront que Raphaël Glucksmann a déjà rassemblé le PS et les plus pessimistes rappelleront que du coup, bah vous plus le PS, ça remplit même pas une Smart. Le Parti Socialiste devenu depuis deux ans le Bouteflika de la politique française, on a beau regarder attentivement, il n'y a plus grand chose qui bouge. Et pourtant, vous êtes là, Raphaël Glucksmann, plus convaincu et déterminé que jamais. Et le plus fou, c'est que même les sondages vous voient grimper semaine après semaine. À croire qu'un programme pour un monde plus juste, plus humain et plus écolo, bah dans le fond, et le paysage actuel, c'est pas si bête, voire nécessaire. Une gauche, une vraie gauche, une politique de gauche, même pour l'amateur de politique que je suis, c'est curieux, voire intriguant. Je suis né en 88, j'ai connu Mitterrand, Chirac, Sarkozy, Hollande, Macron, alors Raphaël Glucksmann, très sincèrement, j'ai hâte de voir ce que ça pourrait donner avec des gens de gauche. Merci de m'avoir écouté.
On se retrouve dans un instant pour la dernière partie de cette émission avec notre invité Raphaël Glucksmann, tête de liste PS Place Publique pour les élections européennes.
Anne Romanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce vendredi avec Mickaël Quiroga, Léa Landau, Ben H, Jérémy Lorca et notre invité Raphaël Glucksmann, tête de liste PS Place Publique pour les élections européennes. Vous faites beaucoup de réunions en province, Raphaël Glucksmann, vous allez sur le terrain.
Oui.
Il paraît que vous êtes assez à l'aise quand vous parlez aux gens.
Ah mais c'est ce que je préfère faire en fait. C'est-à-dire au début j'ai tâtonné, j'étais pas extrêmement à l'aise dans ces débats avec les politiques. Mais par contre, les rencontres sur le terrain...
Ça vous passionne.
Ah mais c'est génial, les histoires que racontent les gens, et surtout cette foi qu'ils gardent. Moi, quand on parle avec un agriculteur qui a réussi à transformer son exploitation en exploitation bio, et qui explique toutes les...
difficultés qu'il
a eues. Ouais, toutes les difficultés qu'il a dû surmonter, et qui a gardé cette foi, comme ça a pris 15 ans, il a eu plusieurs fois l'impression d'être ruiné, et il a réussi à le faire, et aujourd'hui il est fier de son travail, il est fier de ce qu'il a accompli, ou des gens d'associations. Moi j'ai rencontré un jeune qui avait créé un camion douche dans la région de Toulouse pour offrir des douches aux sans-abri de la région.
C'est super.
Voilà, mais ça c'est ça la France, enfin c'est ça la politique en fait. Par contre, ils n'avaient pas de carte, hein. C'était pas...
Vous dites, Raphaël Glucksmann, que vous avez beaucoup de mal à dire aux gens « votez pour moi ».
J'ai trouvé une technique, c'est « votez pour nous ». Ouais. C'est plus facile à dire.
Ça, vous arrivez à le dire.
Bien, ça, j'arrive complètement à le dire parce qu'en plus, je suis extrêmement fier des gens qui sont sur la liste et qui ne sont pas tous des politiques. Il y a Jérôme Carsenti, qui est un avocat spécialisé dans la lutte anticorruption de l'association Anticor et qui a traqué la corruption dans les plus hautes sphères de la politique française. Il y a des gens qui, comme Raphaël Pitti aussi, qui sont des médecins humanitaires qui ont. Passé 65 séjours en Syrie pour soigner les victimes de la guerre. Donc il y a des gens comme ça, moi j'ai envie en fait, qui pénètrent dans les institutions. C'est ça qui me motive aussi. C'est pour ça que j'ai beaucoup plus de facilité à dire voter pour nous que voter pour moi, réellement.
Et ça y est, vous sentez un professionnel de la politique, Raphaël Glucksmann, ou
non.
Justement, non.
Et
vous,
non, et j'espère que... D'ailleurs, il faut me taper sur les doigts, il faut m'inviter tous les ans, et la fois où je deviendrai réellement un professionnel de la politique, il faut me dire, bon, maintenant, t'arrêtes. Et je pense sincèrement que d'ailleurs, il va falloir penser à limiter les carrières politiques dans le temps. Parce que la vérité, c'est que je pense que la plupart des hommes politiques et des femmes politiques sont engagés au départ sur une forme d'idéalisme. Enfin, s'ils voulaient faire de l'argent, c'était pas spécifiquement le lieu. Et donc, ils s'engagent pour des idées.
Des idéaux.
Mais c'est un monde tellement violent, structurellement violent, qu'ils sont obligés de se blinder et de se protéger. Et du coup, ils se protègent tellement qu'à la fin, c'est un peu un univers...
déshumanisé.
Ouais, déshumanisé, j'allais dire de sociopathe, mais c'est mieux de dire déshumanisé.
Sociopathe, carrément.
Non, c'est moins violent. Ouais, c'est moins violent, mais c'est-à-dire... Et c'est quasi structurel, ça, c'est pas un jugement de valeur sur les gens. C'est qu'en fait, c'est tellement violent et tellement compétitif comme univers qu'en réalité, au bout d'un certain temps, on se blinde et finalement, on perd l'empathie.
Donc, à partir de là, faudrait partir, quoi.
Bien sûr, il faut limiter dans le temps. Et par ailleurs, je pense qu'à terme, il faudra aussi... changer la manière dont on conçoit les mandats, par exemple. Moi, je suis convaincu
que, vous savez, là je vais vous faire un aveu, alors, ok, c'est encore, on va me taper sur les doigts, mais...
C'est là où on voit qu'il débute en politique, parce qu'il y a des moments il où confie. Il dit encore la vérité.
Et non, mais par exemple, ça fait 5 mois qu'on a lancé Place Publique, qu'on s'engage en politique, et ben j'ai plus le temps de lire un livre, d'avoir une conversation désintéressée avec les gens, enfin vraiment sans être en campagne ou comme ça, et donc...
Genre
de respirer, quoi, de réfléchir. Et si ça fait 40 ans qu'on vit là-dedans, c'est sûr que c'est, humainement,
on
c'est desséché.
Ouais.
Et donc, ce qu'il faudrait, par exemple, c'est que désormais, on élise des tandems, que les gens ils aient le temps d'aller parler.
Par
comme
alternance.
Ça. Mais quand on est un homme politique depuis 40 ou 50 ans, je pense qu'on n'a pas bu une bière avec quelqu'un de manière désintéressée. C'est-à-dire qu'on est obligé, mais c'est une question de timing. On est obligé toujours d'avoir comme objectif un billard à 13 bandes en se disant bon, lui, j'ai besoin de lui pour ça, elle, j'ai besoin d'elle pour ça. Et en réalité, c'est ça qu'il faut changer, mais c'est structurel, c'est pas simplement qu'ils sont méchants ou qu'ils sont gentils.
Mais vous limiteriez la politique à combien de temps ?
5 minutes ?
Je croyais dire à combien de bières ?
5 minutes,
il faut supprimer bien. Les relations. Il faut supprimer les relations utilitaires entre les gens, en fait.
Non, c'est qu'il faut, qu'il y ait des temps de respiration, que les gens ils fassent de la politique, qu'ensuite ils aient un engagement associatif ou un travail.
Vous prôneriez, Raphaël Gusman, des années sabbatiques pour les hommes politiques ?
Ah, mais bien sûr. Alors ça, moi je suis convaincu de ça. C'est-à-dire qu'il faut faire des pauses. C'est pas possible, sinon c'est une machine.
Vous venez de démarrer, là, vous voulez déjà faire une pause ?
C'est ça,
le feignant.
non, pas du tout. Moi, je suis encore sur la dynamique de l'engagement.
C'est comme quelqu'un qui veut se faire embaucher, qui demande déjà quand vont être les vacances. Ah ouais, Léa Landau a des choses à vous dire, Raphaël Glucksmann.
Oui, Raphaël Glucksmann. Alors, après votre livre, Les enfants du vide, je me suis dit que j'allais faire une interview sans fond. Non, mais Raphaël Glucksmann, comme dirait Jérémy, essayiste. C'est comme chercheur, c'est-à-dire, eux, ils se demandent toujours ce qu'ils cherchent. Et vous, qu'est-ce que vous essayez au final ?
Mais vous savez que j'adore ce mot d'essayiste.
Ouais.
C'est quelqu'un qui essaye. Et moi, je pense que les gens qui se croient arrivés, c'est le moment de la chute. Et moi, je pense qu'il faut essayer. Et personne n'a le mode d'emploi absolu pour sortir de cette crise. Mais ce qu'on a besoin, c'est de gens qui essayent sincèrement. Après, peut-être on a tort. Peut-être on va dans le mauvais sens. Mais ce qu'il faut, c'est essayer. Donc, essayiste. Quoi qu'il arrive, je pense qu'on doit tous être essayistes.
Et alors, vos initiales RG hein, signifient aussi renseignements généraux.
Vous êtes
bien...
à vous. Hein.
Non, mais vous êtes bien renseigné avant de vous lancer dans la politique. Vous saviez avant que c'était un milieu pourri.
Non, mais en fait, je n'avais pas le choix. C'est-à-dire que je pense que j'aurais regretté toute ma vie de ne pas, me lancer dans ce combat. Parce qu'au bout d'un moment, vous faites quoi ? C'est-à-dire que vous dites, il y a une crise. Vous analysez la faiblesse des réponses qui sont apportées à cette crise, mais au bout d'un moment, vos livres, ils tournent à vide. Je fais un livre sur cette crise profonde de la démocratie et de la citoyenneté. Et ensuite, quoi ? Je réfléchis, maintenant, mon prochain livre sera sur quoi ? Ben non, s'il y a une crise de l'engagement politique qu'on diagnostique, il faut essayer d'y répondre.
En fait, l'Europe, c'est le contraire d'une femme. C'est plus elle a du poids, plus on s'y attache. Alors, juste, on parle d'extinction des espèces sur la planète et franchement aussi des éléphants du PS ont tous disparu. Est-ce que vous vous considérez comme un éléphanto pouvant prendre la relève ?
Moi, je pense que la période des éléphants, il n'y en avait pas qu'au PS. Hein. C'est révolu justement parce qu'en fait, il n'y aura plus ces carrières de 60 ans en politique. C'était ça qu'on visait en fait. Et c'est une bonne chose. C'est vraiment une bonne chose. C'est-à-dire qu'on a besoin de respirer en fait, réellement.
Et alors, ma dernière question, Raphaël Glucksmann, vous pensez vraiment qu'après Macron, les gens vont refaire confiance à un beau gosse qui a un petit cheveu sur la langue ?
Merci, Raphaël Glucksmann, d'être passé nous voir. On rappelle que vous êtes tête de l'ISPS, place publique pour les élections européennes. Merci à toutes les personnes qui travaillent sur cette émission. François Desmoulins et Nicolas Charpentier à la réalisation. Lorena Martin à la programmation. Magali Buteau, Caroline Baudry et Pauline Chataignier. Tout de suite, retrouvez Elisabeth Assayag. Et nous, on se retrouve lundi à 11h sur Europe 1.